Vous écoutez Vox Track, une série pour découvrir la musique sous une forme atypique. Présentée par Meb pour Edencast.fr.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love. And what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
C'est bien les Daft Punk que vous entendez pour faire l'ouverture de ce nouveau numéro de Vox Track avec leur titre I Feel It Coming, chanté par The Weeknd. Mais je ne suis pas tout seul pour parler des Daft Punk puisque je reçois aujourd'hui Rico de Wizard qui n'est autre que le collaborateur sur ce titre I Feel It Coming. Nous allons donc apprendre comment les choses se sont mises en place pour arriver à ce superbe titre. Et avec lui, nous aborderons les différentes étapes qui ont jalonné sa très longue carrière. On parlera donc musique, studio d'enregistrement. En tout cas, on ne va pas s'ennuyer. En tout cas, je l'espère pour vous. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce nouveau numéro de Vox Track avec Eric, alias Rico de Wizard. Et sachez pour finir que cette interview a été réalisée en octobre 2025. Et pour cette découverte de Daft Punk, eh bien nous avons 6 pistes à notre disposition qui vont nous permettre. Alors, je vous le dis franchement, hein, c'est pas un vrai multipiste, hein, ça c'est quelque chose qui, grâce à l'intelligence artificielle, a pu être récupéré dans les meilleures conditions possibles, bien sûr. Et nous allons, dans un premier temps, écouter simplement ce qui se passe au niveau de l'introduction de ce super morceau. Voilà, le chant commence ici donc, et nous avons, vous l'avez entendu bien sûr, beaucoup de claviers, des guitares, et puis une basse et une belle rythmique qui est là pour assurer le côté un peu groove. Hein. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu simplement les claviers dans un premier temps, et puis on ira rejoindre Eric pour nous raconter un petit peu son parcours. Avec, vous l'avez entendu en intro, une progression au niveau de l'équalisation jusqu'à se rétablir complètement. Voilà. Ici le chant donc. Et on va essayer d'aller comme ça jusqu'au bout donc de cette partie clavier.
Thank you.
Alors comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'artefacts, on entend très bien, on devine un petit peu ce qui se passe au niveau des claviers, mais c'est vrai que le son est quand même pas génial, j'avoue. Et je vous propose maintenant de retrouver Eric dans quelques secondes. Salut Eric.
Salut Meb.
Je suis ravi vraiment de t'accueillir dans ce Voxtrack un peu spécial, effectivement, où l'on va aborder le cas des Daft Punk, dont tu vas nous parler un petit peu tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais que, pour nos auditeurs, tu te présentes un petit peu.
J'ai 56 ans. Je m'appelle Rico, enfin Eric. J'ai commencé à travailler dans la musique assez tôt, hein, dès l'âge de 14-15 ans. Mon père m'a acheté mon premier synthé quand j'avais 14 ans et un 4 pistes. Et j'ai commencé tout de suite à faire des petites maquettes. Et puis, bah oui, j'ai pas mal bossé jusqu'à mes 20-21 ans. Après, j'ai repris des études pendant 3 ans pour devenir ingénieur du son. Parce que j'ai découvert la musique électronique au début des années 90. Et donc, j'ai eu envie de parfaire, parce que j'étais surtout musicien et je voyais bien que pour cette musique, il fallait aussi connaître les machines. Et donc, voilà, j'ai fait des études. Et en 94, j'ai monté mon premier label. Un label de techno à l'époque, hein, qui s'appelait Pumpkin Records. Et puis après, ça a duré un an ou deux. Et après, j'ai rencontré en 95 un des membres du groupe Daft Punk, Guy Manuel. Et on a monté ensemble un label qui s'appelait Cri d'Amour. Pendant pratiquement 10 ans, on a sorti une vingtaine de disques, de compiles, on a fait pas mal de choses, des tournées, pas mal de trucs. Puis voilà, et puis on a continué à travailler ensemble, on a produit ensemble un album de Sébastien Tellier qui s'appelle Sexuality, Charlotte Gainsbourg. Et puis après en 2017, moi j'ai composé un morceau que les Daft Punk ont produit qui s'appelle I Feel It Coming pour un chanteur américain, The Weeknd.
C'est d'ailleurs l'objet de ce Voxtrack, hein, puisque on va tout à l'heure. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs? Tiens, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au Daft Punk et au titre que tu as produit ou que tu as composé. En fait, tu n'as
non,
fait.
Non, je l'ai composé celui-là. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Des fois, je suis juste ingé son. Des fois, je suis juste producteur. Des fois, je suis juste arrangeur. Et puis, bah, des fois, là, sur le cas d'Affiliate Commune, je suis juste compositeur.
D'accord, donc en résumé, tu as écrit la mélodie, tu as fait les arrangements aussi ?
J'ai écrit la mélodie de musique qu'on entend dès le début, là, tant, 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 et puis tous les voicings d'accords, c'est moi qui les ai écrits, voilà.
Ok. Ouais. Et ça t'est venu comment, cette compo, là ? C'est venu...
Complètement par hasard, hein, comme d'hab, ouais. Avec Guy Mann, on était au studio à l'époque, j'habitais... un appartement au 40e étage d'une tour près de la Défense, à Paris. Et on avait notre studio au 41e étage. C'était l'ancien appartement de Gilbert Bécaud. Et voilà, et je m'amusais. Je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais en tête, c'est un truc débile, un traité d'harmonie où ils disent qu'il faut rester très proche des notes et pas s'éloigner. Et donc, je me suis amusé à chercher des tierces qui se rapprochaient, qui étaient très proches. Et c'est ça qui a donné la mélodie, le riff musical de I Feel It Coming qui est derrière pendant tout le long du morceau. Quoi.
Ça a plu au Daft Punk directement et du coup, ils ont fait un sacré tube.
Bah, en fait, c'est pas que ça a plu au Daft Punk parce que moi, je l'ai fait avec Guy Mann, ce truc.
Ouais.
Et puis, c'est resté dans les tiroirs pendant quand même pratiquement 2 ou 3 ans parce que moi, je l'ai fait en 2014, ce truc. Et c'est souvent comme ça, si tu veux. Nous, les producteurs, on fait des tracks et puis ça part un peu comme des bouteilles à la mer. Et puis, quand ça tombe dans les bonnes mains, le gars, s'il prend la bouteille, voilà. The Weeknd, il a pris la bouteille, il l'a trouvé bien et il a posé sa voix dessus, quoi. Ouais, le titre est très très bien produit. Ça a été produit en grande partie au studio Gang à Paris. Et non, c'est de
qui
la
a fait le mastering de ce truc-là
Je crois que c'est Chab.
D'accord.
Mais honnêtement, j'en suis pas certain. Mais c'est possible que ça soit Chab parce que Chab, c'est lui qui a masterisé le dernier album des Daft. Et moi, c'est un pote à moi et je lui fais masteriser. Je lui ai fait aussi masteriser l'album de Mélanie, Cri d'amour. C'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. Donc, qui est sur Paris et qui est vraiment très, très. J'aime beaucoup sa façon de travailler, quoi.
Quelles ont été les différentes étapes de l'enregistrement de ce titre?
Bah, honnêtement, je vais pas te mentir, j'en sais rien parce que si tu veux, j'étais pas là quand The Weeknd a posé sa voix. Je pense que ça s'est fait aux États-Unis et du coup, moi, j'ai pas suivi la fin de la production, si tu veux. J'ai fait ma partie à moi, c'est-à-dire les deux premières pré-maquettes, on va dire. Qui sont d'ailleurs sur Instagram, j'ai mis une petite vidéo qui fait que 9 secondes où en fait il y a la boucle où je joue pour la première fois la boucle. En fait, c'est marrant, Guyman il avait fait la rythmique de ce qui sera après Starboy, le morceau Starboy, et sur cette rythmique là, moi je joue I Feel It Coming avec un Memory Moog que j'avais passé d'ailleurs à l'époque dans une pédale de phaser. Et on entend Guyman derrière qui dit: Ah, ils sont bien les accords là.
Et d'ailleurs, il y a eu vraiment une grosse utilisation du vocoder à la fin du titre, hein. Ça apporte quelque chose. C'est même presque la signature des Daft Punk, hein, finalement, le vocoder, ça a été beaucoup utilisé.
Oui, alors c'est plus complexe que du vocodeur, mais effectivement, c'est les voix typiques des Daft Punk, quoi, qui sont leur signature, quoi. Et c'est vrai que, bah oui, ce titre a quand même bien marché, parce que là, on a dépassé les 3 milliards et demi de streams.
Et en termes de royalties, comment ça s'est passé?
Bah écoute, c'est pas compliqué, hein, on a partagé en quatre, hein,
Ouais.
donc c'est Guyman, Thomas, Abel, le chanteur de The Weeknd et moi qui avons tout partagé.
Et ça rapporte toujours, sans entrer dans les détails bien évidemment, mais est-ce que ça rapporte
Bah
toujours?
oui, alors c'est pas des millions honnêtement, mais
Mmh.
oui, ça rapporte quand même. Oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est quand même une chance de faire un tube comme
Ben
ça,
oui.
même si ça fait déjà bientôt, enfin 8 ans, bientôt, ça continue à rapporter un peu d'argent et puis à faire vivre, ouais, c'est sûr. Hein.
Ouais, non, ça c'est
C'est
confortable,
pour
on va
ça
dire.
qu'on bosse. Hein.
Ben oui, non, et puis c'est confortable parce que c'est pas la poule aux œufs d'or, mais presque finalement.
Bah, disons que oui, après, bon, bah, c'est sûr que moi, je vois quand je vois ce que rapporte un titre comme ça, je peux imaginer des stars comme les Daft Punk ou d'autres qui en font plein. Effectivement, oui, ça rend riche. Oui. En faire un seul, je peux pas dire que ça rend riche au sens propre
Oui.
du terme, mais disons que ça met quand même très à l'aise, oui.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des revenus qui tombent enfin, régulièrement par la SACEM, etc.
C'est ça, voilà.
Et ça fait toujours plaisir tous les 3 mois
C'est
hein, d'avoir un petit truc qui tombe.
Bah, c'est la semaine prochaine.
Oui, en plus, oui, la répartition, la prochaine répartition, effectivement.
On
À l'heure
l'attend
où on
avec
enregistre
impatience.
l'émission. Ouais. À l'heure à laquelle on enregistre l'émission, effectivement, c'est bientôt. Alors Eric, je me permets juste de t'interrompre le temps de reprendre un petit peu le cours de la décomposition. Alors on a vu que les claviers étaient capitaux hein, dans ce titre, mais ce qui est capital également dans ce morceau, vous l'avez entendu, c'est la rythmique. Et une rythmique omniprésente. Alors j'en suis désolé, hein, mais le son est pas génial, génial. On n'a pas malheureusement pu mettre la main sur le multipiste, hein, bien sûr. Mais on fait avec les moyens du bord. Et puis aujourd'hui, ce qui est très important, c'est surtout, donc vous l'avez compris, la rencontre avec Rico de Wizard. Et donc voilà, cette rythmique donc qui est très régulière comme ça et qui est capitale et qui a contribué vraiment au succès de ce titre. Allez, on l'écoute un petit peu cette rythmique. Allez, on écoute la rythmique encore un peu et puis avec toi, Rico, on va continuer, nous, à discuter du métier d'ingé son. Et je crois que on n'a pas mentionné aux auditeurs que tu étais un des rares vraiment ingénieurs du son non-voyant. Moi, je t'en parle comme ça, mais est-ce que tu veux en parler ou pas, en fait, du fait
Ah
que...
bah bien
Ouais,
sûr, oui,
c'est pas...
absolument,
Voilà.
absolument.
Ouais.
Bah, de toutes les façons, déjà l'autre jour, je parlais avec mon instructeur en locomotion. parce que j'apprends des nouveaux trajets pour aller à Paris sur certains emplacements que je ne connais pas. Et il m'a dit un truc qui m'a un peu sidéré. Et il m'a dit, sur environ 2 millions d'aveugles, il y en a moins d'1% qui sont autonomes en France, quoi.
Ah oui ?
Ouais, c'est étonnant, hein.
Ah ouais.
Il me disait, il n'y a que 1500 personnes qui ont des chiens guides. Donc déjà, c'est extrêmement peu,
ouais.
Tu vois.
Ça me surprend d'ailleurs même. Hein.
Sur 2 millions d'aveugles, 1500 chiens, tu vois,
c'est
ce que je veux
rien.
Dire.
C'est quand même rien, ouais, c'est ça.
C'est 0, ouais. Quelque chose pour cent. Et puis, bah, par les gens qui se débrouillent avec la canne, comme moi ou d'autres, finalement, on n'est pas si nombreux que ça, quoi. Tu vois.
Et les autres, alors, ils font comment ?
Eh ben, ils restent chez eux, ils ont des aides. Finalement,
incroyable le chiffre que tu me donnes.
Ouais, alors bon, faudrait peut-être le vérifier, mais moi aussi, ça m'a un peu sidéré. Et en même temps, bon, tu vois, j'ai fait le Paris-Versailles dimanche dernier. Il y avait 25 000 concurrents, on était peut-être 10 malvoyants, tu vois.
Oui, oui.
Ou aveugles. Enfin, moi, je ne fais pas trop la différence. Mmh. Mais, donc, moi, la chance, entre guillemets, que j'ai eue. Chance et malchance, bon bah ça dépend dans le sens où tu veux le prendre, mais c'est que moi je perds la vue petit à petit en fait. Donc si tu veux, j'ai pas été tellement handicapé que ça jusqu'à, on va dire, l'âge de 27-30 ans.
Tu peux nous dire de quelle pathologie tu es
J'ai une rétinite pigmentaire.
Voilà, ok.
Donc j'ai une rétinite pigmentaire, je suis né avec ça. Je peux pas dire que je l'ai vécu comme un handicap. Pendant de longues années, si tu veux, je m'adaptais, je faisais avec. Je peux pas vraiment parler. Enfin, je pouvais pas parler de. Enfin, je me sentais pas vraiment. Ouais, c'est ça le ce qu'on appelle le handicap, tu vois, avec un grand H.
Ouais.
Alors que ça, c'est arrivé plus tard, tu vois. Mmh. C'est-à-dire le moment où tu te retrouves dans la rue et tu vois que tu peux plus rien faire, quoi. Où il n'y a plus d'image nulle part et que là, faut se démerder avec la canne, quoi. Et ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et en studio, comme ça marchait bien, si tu veux, dès la fin des années 90, je pouvais travailler avec un assistant qui me permettait d'accomplir ce que moi, je ne pouvais pas accomplir. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je le dirigeais sur l'ordinateur, etc. Et puis, il y a eu une grosse bulle comme ça qui a duré, on va dire, presque 10 ans, dans laquelle j'avais quasiment aucune autonomie dans mon studio, tu vois, parce que je pouvais rien faire sans assistant, enfin, ou très peu de choses, quoi. Et puis, à partir de 2008-2010, grâce à Apple et VoiceOver, c'est vrai que là, l'autonomie est revenue,
petit à petit.
Logic, effectivement, permettait une petite accessibilité. Et puis, ça a grimpé. Et c'est vrai que dès 2000, moi, je me rappelle, 2013-2015, je commençais à devenir, à rechoper l'autonomie dans mon studio. Mmh. Évidemment, bien sûr, tous les branchements, tous les trucs avaient déjà au préalable été faits par des assistants. Mais une fois que le studio est câblé, une fois qu'il est...
Opérationnel, on va dire.
Opérationnel, ouais. Voilà. Je peux me débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, on est à un stade où, honnêtement... je peux faire quasiment tout de A à Z dans mon studio, sans personne. Alors, je continue à travailler avec des assistants, parce qu'évidemment, pour le workflow, la rapidité, etc., et puis aussi pour le confort des gens avec qui je travaille, parce que voice-over toute la journée, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, à mon avis, ça doit être assez insupportable. Mais quand je suis tout seul, je peux faire vraiment tout, quasiment de A à Z, quoi. Et d'ailleurs, je fais des morceaux. Cet été, j'ai fait 3 morceaux intégralement tout seul dans le studio, vraiment de A à Z, quoi.
Et est-ce que tu as du matériel hardware, vraiment des grosses machines, tu vois,
genre, oui.
Genre moi, compresseur
Alors moi, j'ai la chance d'avoir du matériel vintage. Mmh. Donc l'avantage du matériel vintage, c'est qu'il n'y a pas d'écran. 99% du matériel vintage, c'est des boutons que tu tournes et que tu pousses, quoi.
Et qui sont crantés la plupart du temps, bien
et
souvent.
Et qui sont crantés. Ouais, voilà. Moi, j'ai une console Neve de 1976. C'est une console, elle s'appelle 5315, qui est mythique. Hein. C'est une console qui vaut plus de 200 000 euros et qui est un collector. En plus, la mienne, c'était celle du gars de Depeche Mode. Donc, c'est un vrai collector. Ça a un son unique, c'est irremplaçable. Moi, je travaille qu'avec du hardware, quasiment. J'ai même deux méthodes. C'est-à-dire que souvent, je travaille d'abord avec le hardware. Je fais tout avec ma console, mes compresseurs, j'ai beaucoup de synthés analogiques aussi. Si je te fais une petite liste non exhaustive, tu vois, j'ai le Mini Moog, le Memory Moog, le Rhodes Chroma. Tout ça, c'est des vieux synthés analogiques, du Jupiter, du 1660. J'ai aussi un piano électrique, un CP, qui est un vrai piano, mais électrique comme une guitare. Donc, on peut le brancher avec un jack sur une console. Un vieux Fender Rhodes des années 70, un clavinet, enfin. Et donc, on traite tout ça avec du vintage. Et après, une fois qu'on a recordé tout ça dans l'ordi, eh ben pour que ça redevienne moderne, ben là, j'utilise les plugins. Et ben là, grâce à Logic, il y a aussi Lucas, tous les aveugles le connaissent, qui, avec Manu, qui ont fait un super programme qui s'appelle Fastboard, pour Logic, est quand même un super truc. Évidemment, c'est sûr que ça ajoute pas de fonction, mais par contre, qu'est-ce que ça arrange au niveau du workflow? On est vachement plus rapide, c'est agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup Fastboard, je travaille beaucoup avec, même s'il y a encore quelques bugs. Moi, je suis très content, j'utilise Logic tous les jours, et c'est vraiment génial, quoi. Donc, mais on a accès à... moi, je pense qu'aujourd'hui, un gamin aveugle, qui a juste un Mac, il peut tout faire.
Clairement, oui. Clairement,
ouais, oui. Il peut faire un morceau de A à Z. On ne va pas parler non plus, en plus, des IA qui arrivent. Et, moi, je commence à travailler aussi avec les IA, avec Suno. Et c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est positif ou non, ça, on le saura dans 10 ans. Mais en tout cas, c'est d'une puissance terrifiante. Si, par exemple, tu vois, moi, je me suis amusé la semaine dernière, je joue 3 accords de Rhodes. Je chante avec ma voix de Cressel, la 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 la, comme ça.
Ouais.
Donc, je lui ai donné la mélodie, je lui ai donné des accords. Je vais dans ChatGPT, je dis à ChatGPT, tiens, s'il te plaît, fais-moi un couplet d'un mec qui marche sur la plage, qui prend une feuille de palmier et qui roule un joint avec. Je mets ça dans Suno et il me sort des super couplets avec des super voix que je peux extraire et mettre dans mon Logic. Et que après, je peux équaliser avec des EQ à 20 000 balles et qui font que le son qui n'est pas très bon de Suno devient d'un seul coup plutôt pas mal.
Oui, parce qu'il faut retraiter. Hein. C'est ce qu'on ne dit pas assez. C'est que les sons qui sortent de ces trucs-là, il faut quand même le retraiter. Parce que si tu le prends brut de chez brut, c'est pas très beau. Hein.
Ça ne sonne pas génial encore pour l'instant. C'est ça leur défaut. Ouais. Autant c'est très bluffant au niveau créativité et tout ça. Mais enfin, on peut déjà démixer 10 pistes.
Ouais, quand même énorme.
C'est quand même extrêmement impressionnant, surtout pour des gars comme moi, si tu veux, qui viennent des années 80, 90. Jamais tu m'aurais dit dans les années 90 qu'un jour on aurait pu faire ça, je t'aurais cru. Quand il y a eu les boîtes à rythme, on a dit il n'y aura plus de batteurs. Quand il y a eu les premiers sampleurs, on a dit on n'utilisera plus d'orchestre, etc., etc. Et finalement, les boîtes à rythme ont changé la musique, c'est devenu une culture. Mmh. Les sampleurs, c'est devenu une culture. Moi, je suis toujours très surpris aujourd'hui, en 2025, quand j'entends des gens qui me disent « Oh là, je n'ose pas sampler parce que c'est comme si je prenais une œuvre. » Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Que le sampling, c'est une culture en soi, que c'est une façon de créer de la texture, de la matière. Et que sans sampler, c'est juste impossible d'avoir cette texture ou cette matière.
D'ailleurs, le rap repose uniquement d'ailleurs sur le sample, hein, beaucoup.
Bah évidemment, ah oui, absolument. Oui.
Le rap n'existerait pas hein, sans ça.
Ah bah absolument, je suis d'accord. Et depuis 40 ans.
Ouais. Pas simple. Oui, puisqu'avant le système des samples, on avait d'autres combines en fait hein, pour faire tourner des boucles. C'était pas, voilà. On n'appelait pas ça des samples.
C'est ça.
Mais on appelait ça des loops. Et d'ailleurs, déjà dès les années 75, il y a des titres. Tu regardes, par exemple, tout ce qui est disco, etc. Les mecs sont tellement réguliers. C'est déjà des boucles de batterie, en fait. Hein.
Ben oui,
sauf qu'on avait affaire à des gens qui, à l'époque, savaient manipuler la bande magnétique de telle sorte que tu as l'impression que le mec joue tout le long, en fait. Tu vois, voilà. Donc ça, c'était des astuces de studio des années 70-80. Et c'est vrai qu'avec le sample, c'est grâce à Akai d'ailleurs, avec le S1000, que le sample s'est démocratisé, on va dire.
Ah ouais, bah moi, le S1000, ça a été un de mes premiers samplers que j'ai acheté. Et encore, c'était cher à l'époque. Hein.
Oui.
C'était 30 000 francs.
Ah oui, non,
c'était très, très cher. Moi, je me rappelle, j'en avais acheté un et je m'étais ruiné pour ça. Mmh. Et... en 86, tu vois.
Ah oui.
Et, ouais, 86, 87. Et à l'époque, je faisais toutes les musiques des films porno de Marc Dorcel. tu vois.
Ah oui, d'accord. Ouais. À l'époque, tu y voyais suffisamment parce que c'est du travail de musique à l'image. Donc là, tu devais suivre l'image et tu devais essayer de coller des mélodies, quoi.
Alors à l'époque, je travaillais avec un Atari, tu vois, c'était l'époque de l'Atari, le 1040 et le 520 ST, et qui était synchronisé à un magnétoscope, tu vois. Et donc, quand je démarrais l'Atari, le magnétoscope démarrait avec un timecode. Et à l'époque, j'utilisais l'ancêtre de Logic, qui s'appelait, Creator. Il y avait le Creator et le Notator, qui est du même mec qui a fait Logic, je crois, Alan Jelling, qui venait d'ailleurs juste avant, et c'est vraiment avec ça que j'avais démarré, du Commodore 64 avec le logiciel qui s'appelait SuperTrack, qui était vraiment le tout premier logiciel de Alan Jelling. Et à l'époque, il y avait 24 pistes ou 16 pistes.
Ce qui était déjà énorme, c'était énorme pour l'époque.
Ce qui était déjà top, quoi. Et voilà, et moi avec mon S1000, j'avais mes sons de violon, mes sons de ci, mes sons de ça, et je faisais toutes les musiques des films porno. C'était marrant, quoi. J'en ai fait 27 en 4 ans ou 5 ans. Et puis, j'ai arrêté ça en 91 quand j'ai repris mes études, quoi.
Et là, du coup, c'était vraiment du travail à l'image, quoi. C'était de la musique à l'image.
Ouais, c'était du travail à l'image. Alors, c'est vrai qu'au début, je faisais attention à ce qu'il y avait à l'image. Après une dizaine de films, je faisais plus très attention. Parce que de toute façon, bon, c'est quand même du film porno, donc c'est quand même pas...
Est-ce que tu crois que la musique a vraiment du sens pour ce genre de film ou pas?
Alors, à l'époque... À l'époque, dans les années 80, ça avait encore du sens. Parce que c'était des vrais films. Il y avait, entre guillemets, encore des vrais petits scénarios, des vrais petits décors, on va dire. Nous, en plus, on faisait des vrais génériques. On faisait une chanson à chaque fois, pour chaque film. On avait fait le logo du Toucan aussi, la musique, qui est leur logo, quoi. C'est à l'époque, Marc Dorcel, c'était quand même le deuxième producteur mondial, donc c'était quand même une grosse industrie et ça avait du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'aurait plus aucun sens. C'est évident. Ouais. C'est évident.
Et ça t'a permis d'apprendre à utiliser d'abord du matériel et puis surtout aussi à te forger et à te former à la composition.
C'est ça, ça m'a permis à faire... C'était une bonne école au niveau de l'arrangement, au niveau de l'ordi, d'apprendre à servir du logiciel et tout ça. Et puis, à l'époque, oui, c'est vrai que j'étais plus dans les variétés, faire de la variété, travailler avec des gens. Mais c'est vrai que la bascule, elle s'est vraiment faite en 91, quand j'ai découvert la teuf, les raves et tout ça. Où là, vraiment, c'était une autre façon de travailler encore. C'est-à-dire que là... Je suis passé de la façon traditionnelle, c'est-à-dire faire de la musique traditionnelle, mettre des pianos, des violons, des orgues, enfin des instruments, à faire des sons. C'est-à-dire où là, on n'est plus du tout dans faire de la musique au sens tradi, mais avec la techno, ce qui compte, c'est créer des textures, créer des ambiances, créer des sons, quoi. Mettre des effets. Donc là, je suis beaucoup plus passé en mode... pédale de guitare, passer dans des distos, faire des chemins bizarres. J'avais une grosse console, je l'ai revendue, j'ai acheté une petite Mackie 12 voix, parce que justement, c'est... quelque part, on revenait plus à l'esprit home studio, en fait, avec la techno et la house. On revenait plus, c'était plus une façon de faire qui était plus simple, d'une certaine façon, moins académique, beaucoup moins académique, et qui permettait en fait que d'aller vers des nouveaux styles de musique, quoi. Utiliser des filtres aussi pour sampler. Moi, j'ai des pédales de Mutron, c'est des pédales de basse des années 70. On les a beaucoup utilisées, les Daft aussi, pour filtrer les sons et tout ça. Et donc là, on est beaucoup plus dans l'obtention d'une couleur que dans le fait de faire des belles mélodies au sens propre du terme.
Oui, oui, on joue plus sur le son, vraiment, pour la beauté du son, plutôt, que sur l'accès mélodie, etc. C'est vraiment une recherche esthétique sonore.
C'est ça, exactement. Et quand on voit le premier album des Daft, les premiers tubes, il n'y a pas grand-chose, en fin de compte, musicalement parlant. Il y a peut-être trois éléments, mais les trois éléments sont tellement bien goupillés ensemble que ça donne quelque chose où tout le monde remue la tête tout de suite, quoi.
Ouais, tout à fait. Tu fais bien d'en parler, Eric, parce que justement, on va revenir à la décomposition du titre. et tu vas redécouvrir peut-être d'une manière un petit peu dégradée, certes, le son de la basse de ce morceau, une basse à la fois synthétique et une basse électrique jouée donc par un vrai bassiste. On va remercier quand même l'intelligence artificielle qui a fait ce qu'elle pouvait hein, pour essayer d'extraire des pistes exploitables. Donc voici la basse qui d'ailleurs ne rentre qu'au moment du chant. Donc voilà ce son de basse. Alors c'est pour ça que je pense que c'est bien un son un petit peu synthétique, quoique mélangé avec une sorte de basse électrique. Au niveau du refrain, on entendra beaucoup mieux le son de la basse électrique. Voilà, la voici cette basse électrique. Alors moi je voudrais qu'on continue un petit peu à discuter encore avec toi Eric. Et donc en 1991, pour reprendre un petit peu le cours de notre conversation, tu es toujours voyant.
En 91, tu vois, pour te donner j'avais une canne blanche mais je la sortais pas, tu vois. C'est-à-dire que je l'avais dans mon sac tout le temps. Mais je ne la sortais pas vraiment. J'ai commencé à sortir ma canne blanche en 96-97, tu vois.
Ouais, quand tu ne pouvais vraiment plus faire autrement, en fait.
Voilà, alors je ne la sortais pas. Honnêtement, je ne la sortais pas parce que j'en avais besoin, tu vois, moi, mais pour me faire remarquer aussi. Pour que les gens voient que je voyais mal. Tu vois, au début, c'est souvent ça. Au début, tu ne la sors pas pour toi, tu la sors pour que les gens voient qu'il y a un malvoyant. Tu vois. Et en fait, c'est une longue descente aux enfers, faut être honnête.
Non, mais c'est bien qu'on en parle, moi, je trouve.
Moi, souvent, je me suis posé la question, c'est quoi le mieux ? Est-ce que c'est être aveugle de naissance ou est-ce que c'est ce qui m'arrive à moi ? Parce que il y a du pour et du contre dans les deux cas, en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué de perdre la vue petit à petit parce que ça, déjà ça s'arrête jamais sauf quand t'es à zéro, mais même moi là je suis pas à zéro, mais si tu veux au stade où je suis, moi je me considère à zéro. Je me considère pas du tout malvoyant, enfin tu vois, pour moi c'est pas ça malvoyant, moi là c'est non voyant, c'est pas parce que je vois c'est pas parce qu'il y a des trucs qui viennent me flasher la tronche que je vais te dire je suis malvoyant. Tu vois ce que je veux dire, il y a un moment donné où il faut appeler un chat tu vois. Oui, ok, je perçois des lumières, ah bon bah ok t'es malvoyant, bah ok bah d'accord, mais n'empêche que je peux pas me faire un pas dans la rue si j'ai pas une canne.
C'est
ou...
ça, on est bien d'accord.
Voilà, donc là ouais je suis arrivé à ce stade là et honnêtement ça a été très très difficile, c'est un passage qui est très difficile et qui s'étale sur plusieurs années parce que c'est marrant, on réalise pas tout de suite comme on perd la vue, c'est comme vieillir. C'est quelque chose qui
se fait tellement de manière insidieuse.
C'est ça.
Tu t'en rends pas compte, en fait.
Voilà, tu t'en rends pas compte, et puis tu perds la vue, tu perds la vue, puis à un moment donné, ouais, tu te sens... ouais, c'est comme si un drap t'avait recouvert, quoi, je ne sais quoi, et puis que bah, tu te sens vraiment...
Ouais, mais tu sais, quelque part, il vaut mieux que ça se fasse comme ça, en douceur, que du jour au lendemain, tu te réveilles, tu vois plus, quoi.
Ouais, ça, ça doit être horrible. Alors ça, à mon avis, c'est le pire. Non, c'est sûr que ça doit être très, très violent. Quand tu perds la vue d'un coup, à mon avis, c'est le truc le pire. Mais après, bon, bah voilà, c'est sûr que de toutes les façons, il faut bien se débrouiller avec ce handicap. Et qu'on le veuille ou non, c'est un handicap lourd. Hein. Moi, je le prends. Maintenant, aujourd'hui, je vis ça comme un handicap très lourd. Parce que toute chose est un combat, quelque part.
Oui, ah oui, oui, oui. Tu passes ta vie à te battre pour tout, en fait.
C'est ça, exactement. Tu es tout le temps en train de galérer. Il y a peu de tranquillité dans ce handicap. Et puis, c'est compliqué socialement, c'est compliqué...
En fait, c'est un handicap qui a plusieurs ramifications, si tu veux. C'est à la fois, c'est social. Enfin, si tu veux, notre société est quand même beaucoup basée sur le visuel, en fait. On ne se rend pas compte de la portée de ce handicap, en fait. Parce que au-delà de l'autonomie, ça, on peut la retrouver, si tu veux. Mais il y a un truc sur lequel on n'y arrive pas, c'est le côté social. Et ça, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'accessibilité qui feront que, socialement, ce handicap sera accepté, toléré.
Je sais que moi, j'ai fait pas mal d'efforts ces derniers mois, tu vois, pour me remettre à sortir plus, à essayer parce qu'effectivement, on s'en rend pas compte, mais si on fait pas gaffe, on s'isole un peu plus, quoi. On sort moins, on reste plus chez soi, dans des zones de confort, quoi. Ce qui est normal. Tu vois, hier, moi, j'avais un rendez-vous à Paris. Fallait que j'aille à la gare Montparnasse, après que je prenne la ligne 13, que je change à la place de Clichy, que je prenne un autre métro. Bon, ça m'a mis 1h45, tu vois. Et puis, 1h45, c'est pas 1h45 de plaisir. C'est 1h45 de transport en commun où tu as des mecs qui shootent dans ta canne, où tu trouves pas les bandes par terre.
La charge mentale est énorme, en fait, quand tu es...
Tu rentres, tu te reposes, quoi. Ouais, ta journée, elle est finie quand tu as fait ça, tu vois.
Et puis, avec l'âge venant, c'est pire.
Ouais, voilà, c'est vrai que bon, moi, c'est encore ça, parce que je suis un peu sportif, je cours, je fais des choses.
T'es pas vieux, quoi.
Ouais, 56 ans, ça va.
Mais c'est vrai que quand t'es enfant, quand t'es adolescent, quand t'es jeune adulte, c'est vrai que la charge mentale est beaucoup plus acceptée, et on y arrive mieux. Enfin, si tu veux, on supporte beaucoup plus de choses.
C'est vrai.
L'air de rien, quoi.
C'est là que tu vois la chance qu'ont les gamins d'aller à Ninja ou de... Mais encore une fois, finalement, c'est une faible proportion par rapport au nombre de personnes qui ont des problèmes de déficience visuelle, quoi. Là, on ne va pas rentrer dans ces problèmes-là, mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot, hein.
Tu as plusieurs façons de voir le handicap de l'autre. Il y a ceux qui se projettent et qui ont très très peur du handicap, comme si ça pouvait se transmettre, si tu veux, comme une maladie.
J'ai déjà entendu des gens dire « si j'avais ce que tu as, je me suiciderais ».
Mais il y en a plein qui disent ça, il y en a plein, il y en a plein.
C'est vachement encourageant, d'ailleurs.
Et c'est pas très sympa pour nous, en plus.
Tu dis « t'as raison, je vais peut-être me suicider, alors ».
T'as peut-être raison. Hein. L'entourage aussi, des fois, est toxique aussi. Quand t'es non-voyant, et ça aide pas non plus. Donc tu vois, c'est quand t'es non-voyant, il faut déjà, à mon avis, être bien dans sa tête, entre guillemets.
Non, c'est vrai, ça demande une discipline psychologique pour essayer de rester bien stable, quoi.
Puis il faut avancer dans la vie, hein. c'est vrai, hein. On n'a pas le choix. Ou alors tu crèves, quoi, c'est marche ou crève, en fait, hein.
C'est marrant, parce que tu vois, hier, quand j'étais dans le train à Montparnasse, quand tout le monde est sorti, j'ai senti qu'il me fallait une petite pointe de courage, tu vois.
Ouais.
Alors que les gens, ils sortent du train, ils ne se posent pas la question.
Ouais.
Tu vois,
pour eux, c'est naturel.
Voilà, ils sortent du train, ils vont prendre leur métro. Alors que moi, tu vois, pour me lever, je me suis dit, bon, allez, vas-y, quoi. Allez, c'est parti, gare Montparnasse, il faut aller jusqu'à la ligne 13, quoi. Tu vois, il a fallu que je me motive, quoi.
Surtout quand c'est des trajets que tu ne connais pas bien, que tu ne maîtrises pas bien.
Ah ouais, encore celui-là, je le maîtrise à peu près, mais même en le maîtrisant, si tu...
En fait, il suffit que tu fasses ce trajet à une heure de pointe où il y a plus de monde que d'habitude, tout de suite, ça te change,
ça change tout.
Rien que le bruit dans les couloirs, l'écho dans les couloirs est modifié. Tu as des repères sonores que tu n'as plus parce qu'il y a du monde.
Moi j'ai remarqué, Montparnasse, dès qu'il y a trop de monde, ça devient, pour nous, c'est insupportable, parce que on n'a plus de repères audio parce qu'il y en a trop.
Voilà.
Et les gens, il y a trop de gens, donc les gens shootent dans la canne. Ils sont gentils, les gens, hein. Franchement, globalement, moi j'ai remarqué, ils essayent, la plupart du temps, les gens ne font pas exprès, ils sont pressés, ils ne font pas gaffe, quoi. Tu vois. Mais ça n'empêche que c'est compliqué, quoi. Ça fait ajouter que de la complexité au trajet. Et ça, moi je me le dis tout le temps, à chaque fois que je fais un trajet, je me dis, mais pourquoi ils ne foutent pas plus de balises sonores, quoi. Pour, je veux dire, le métro, quand même, c'est pas si compliqué que ça à équiper, quoi.
C'est clair.
Et je trouve ça incroyable qu'en 2025, on en soit encore là, nous, les aveugles. C'est vrai qu'au niveau des feux, c'est pas trop mal, mais bon, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin en matière d'accessibilité, quand même, hein.
Avant de retrouver Rico, je vous propose maintenant d'écouter dans ce titre, il y a au moment du refrain une guitare rythmique qui rentre en scène. Et c'est ce que je vous propose d'écouter toujours dans une qualité moyenne, voire par moments très médiocre, avouons-le. Et c'est aussi la preuve que malheureusement, il n'y a pas mieux que d'avoir les vrais multipistes. On est bien d'accord. Et en fait, il y a plusieurs guitares. Alors Rico, moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune non-voyant, un jeune adulte qui voudrait se lancer dans le métier du son? Comment tu vois ça en fait aujourd'hui pour les non-voyants qui voudraient se lancer vraiment dans le son de manière hyper professionnelle, on va dire? C'est chaud ou pas?
Je pense que c'est moins chaud quelque part qu'à
Ah
mon
bon?
époque.
Ouais. Oui, mais à ton époque, tu voyais quand tu t'es lancé dans les études.
Ouais, mais tu vois, je pensais par exemple à Stevie Wonder. Bon, évidemment, c'est un cas vraiment à part,
Ouais.
mais lui, il faisait tout seul quelque part. Mais bon, il avait des ingé sons pour l'enregistrer quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'accessibilité de VoiceOver et des ordis, on peut aller quand même très très loin, honnêtement. On pourra peut-être pas aller aussi loin qu'un voyant, mais quand même, on peut aller, j'ai presque envie de dire, au moins à 70% de ce qu'un voyant peut faire, ce qui est énorme.
Et puis on travaille peut-être pas forcément à la même vitesse, mais en qualité, je pense qu'on s'y retrouve.
Alors voilà, c'est sur la vitesse, quoi, parce qu'évidemment, nous, c'est plus compliqué, mais même ça, j'aurais envie de te dire, ça va avoir tendance à disparaître parce que là, par exemple, j'ai chopé un petit contrôleur SSL qui s'appelle UF8 et on est en train de découvrir avec mon assistant qu'avec ce contrôleur, on peut gérer plein de plugins. Et là, déjà pour le mix, si tu veux,
Ah
c'est
ouais.
vraiment top parce que là, tu as les boutons sous les doigts,
T'as ton
donc tu.
compresseur, t'as tout, ah ouais,
Voilà,
c'est bien.
et c'est vrai que là, bon, j'ai pas encore creusé le truc à fond, mais du peu qu'on a vu avec mon assistant, c'était vraiment, ça a l'air très prometteur en termes d'accessibilité, tu vois. Et même, je vois aussi, par exemple, là, je commence à me plonger sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live, qu'ils ont rendu accessible depuis peu, hein, depuis quelques mois. Et le peu que j'ai vu pour l'instant, c'est pareil, c'est très très prometteur, tu vois. Et là, c'est intéressant parce que, si tu veux, jusqu'à présent, nous, les aveugles, les déficients visuels, on avait accès que à Logic quelque part. C'est le seul logiciel sur lequel on pouvait avoir une grande liberté. Alors que là,
Il y a Reaper
ah oui,
aussi.
pardon, il y a Reaper. Oui, mais
Ah ouais.
Reaper, c'est plus, j'ai envie de dire PC. Et PC, bon, on va pas faire la
Ouais,
guéguerre parce
non,
que
non,
ça sert à rien.
ouais.
Reaper, c'est un super logiciel, il n'y a rien à dire. C'est vraiment hyper accessible, même plus que Logic sur plein de choses. Mais pour moi, le problème, c'est que personne bosse avec ça, quoi, tu vois. Donc c'est super d'avoir un super outil, sauf que tu es le seul à bosser avec, quoi. Donc ça, c'est chiant. Alors que là, aujourd'hui, bon, Logic, il y a beaucoup de gens qui bossent avec. Et puis Ableton Live, pratiquement tous les jeunes aujourd'hui, ils commencent avec Ableton Live. Donc là, un aveugle, au jour d'aujourd'hui, au moment où je te parle, qui a envie de faire du Ableton Live, il peut.
Quels seraient tes conseils pour un jeune non-voyant qui voudrait se lancer vraiment dans ce métier d'ingénieur du son?
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, on a accès à tout. Donc, si tu veux, grâce à YouTube, par exemple, tu as des formations complètes. T'es pas obligé. Tu vois, le problème aussi qu'il y avait avant, c'est que pour un déficient visuel, c'est que, il y avait que des filières classiques d'école pour apprendre. tu vois, du type Esra, Louis Lumière, etc., privé comme public. C'est des formations qui sont faites pour les voyants.
Toi et moi, ça a été la débrouille. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'un non-voyant peut, avec les systèmes existants, peut devenir un gestion?
Moi, je pense que oui, franchement. Ouais, je pense que oui. D'autant que les techniques sont en train de changer. On va utiliser de moins en moins le hardware. De plus en plus, tout va se faire in the box. Tu vois, comme on dit, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ordinateur. Et comme l'accessibilité chaque année est rendue plus avantageuse pour nous, eh bien, on peut raisonnablement penser que pour un jeune, l'accessibilité va être de plus en plus ouverte au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, moi, je vois, par exemple, des fois, ça m'est arrivé d'utiliser ChatGPT pour demander des raccourcis logiques. Tu vois, c'est-à-dire, je me rappelais plus d'un truc, le raccourci, il n'est pas dans Fastboard, bon, bah, je demande à ChatGPT, et ChatGPT, il te sort le raccourci. Donc, c'est ça, ça devient complètement incroyable maintenant, tu vois, c'est-à-dire que tu as quand même, grâce à la technologie croisée, j'ai envie de dire, entre, par exemple, les vidéos YouTube, ChatGPT, plus ton exploration personnelle dans les logiciels, de quoi faire des pas de géant que tu pouvais pas faire il y a encore 10 ans. Si tu veux faire un business de studio, bon, bah là, c'est encore autre chose quand même, parce
Oui, parce
que
que les studios, ça, on peut pas dire que
voilà,
ça
la
marche
loca...
très fort en ce moment en plus.
Ouais, ça marche pas très fort. Et puis la location de studio, là, il faut que ça tourne, si
Il faut
tu
que ça
veux.
tourne, ouais, tout à fait.
Voilà, donc tu peux pas, en tant que non-voyant, faire tourner un studio. D'ailleurs, moi, le mien, je l'avais jamais. Je suis en train de me dire que je vais le mettre en location, là, parce que je travaille moins dedans. Mais je l'ai jamais fait de ma vie, tu vois. Et là, si je le mets en location, ça sera pas moi qui m'en occupe. Tu vois, c'est-à-dire que je paierai un assistant qui fera les journées à ma place, quoi. Non, je pense qu'en tant qu'aveugle, on ne peut pas diriger un studio, en tout cas concrètement. On peut être le boss si on a le pognon pour investir.
Oui,
Oui, ça c'est, on peut être
ça
le
c'est tout
patron
à
du
fait
studio
possible,
sans problème.
ouais, bien sûr.
Si tu es aveugle et que tu as 500 000 euros à mettre, enfin, tu vois,
Mais
dans
faire
des
tourner
locaux.
le studio vraiment avec des sessions
Non,
qui
faire tourner
s'enchaînent
le
et tout,
studio, c'est pas
ouais,
possible,
moi
franchement.
je pense pas parce
Non,
que
non, faut être clair.
ou alors pour des projets bien identifiés, tu vois, pour des projets bien spécifiques, etc., où tu as du temps, voilà, peut-être
Ouais, mais
ça, mais
non,
c'est tout, quoi.
voilà, pas dans un projet financier, si tu veux.
Oui,
C'est
voilà.
pas dans un truc où tu as de la location tous les jours des groupes différents, tous les jours des gens différents. Un aveugle, il peut pas gérer ça. C'est trop complexe, si tu veux. Et puis, alors moi, je l'avais fait à un moment donné de mettre VoiceOver dans l'oreillette. Tu vois, c'est-à-dire que bah, j'avais Logic dans les enceintes et VoiceOver dans l'oreillette. Mais c'est très désagréable. En plus, moi, je lis beaucoup de livres aussi, donc j'utilise VoiceOver parce que je préfère lire avec la voix de VoiceOver qu'avec les livres audio, souvent. Parce que je trouve que les livres audio, ben, comme il y a une interface humaine, quelque part, tu rentres moins dans le livre qu'avec la voix de VoiceOver. Enfin, bon, c'est très personnel, mais en tout cas, bon, ça fait que je pense que par jour, je compte pas, mais à mon avis, c'est plusieurs heures par jour que j'entends la voix de
Ouais.
VoiceOver. Et voilà, et c'est vrai que. Mais bon, c'est marrant, quand je fais de la musique, c'est comme si je faisais plus gaffe quelque part, tu vois? Je suis concentré sur ce que je fais, donc
Ça passe en second plan et ça nous
ouais,
interpelle que lorsqu'il y a un problème, en fait.
c'est ça exactement. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, c'est vrai que ce qui est chiant pour nous les aveugles, si tu veux, c'est la petite erreur, le petit truc pas coché, la petite case qu'on n'a pas vue et qui d'un seul coup bloque tout le système, quoi. Tu vois? Moi, ça m'arrive régulièrement quand j'allume mon studio. Des fois, je sais pas, il a pas bien mis le mot de passe. Et puis bon, bah là, je rentre dans une boucle infernale où il va falloir que je réteigne tout et que je rallume tout, quoi. Parce que même avec VoiceOver, j'arrive pas à récupérer le truc. Puis voilà, ou des fois avec Logic, je suis dans un emplacement où je suis perdu. Enfin bon, avec Logic, ça m'arrive pas. Mais disons que on voit bien que quand même, bon, il y a des limites à tous ces systèmes. Moi, je vois souvent dans le studio, c'est souvent une petite connerie qui vient me foutre un grain de sable et ça me bloque tout, quoi. Tu vois? Et ça m'est déjà arrivé des fois que bah, je puisse plus rien faire pendant 2 jours en attendant que l'assistant revienne parce que c'était un truc à deux balles que j'avais pas vu qu'il fallait cocher, quoi.
Et t'as personne qui est dans ton entourage qui pourrait te dépanner?
Alors non, parce que si tu veux, moi je considère que mon épouse,
elle a pas à faire ça, ouais.
Voilà.
On est d'accord.
Je veux dire, on a déjà quatre gosses. Enfin bon, même si on a deux grands, y a une petite de 4 ans et une ado de 14 ans. Donc si tu veux, je considère que elle déjà en tant qu'épouse, elle pallie déjà à mon handicap en s'occupant de tout. Tu vois, elle fait les courses, elle fait tout. Donc je vais pas en plus lui demander de s'occuper de gérer mes problèmes. Alors des fois, quand j'ai vraiment pas le choix, tu vois. Mais c'est plus souvent, c'est plus sur des trucs d'ordre privé, j'ai remarqué, que sur des trucs pro, parce que sur les trucs pro, j'attends que mon assistant vienne, tu vois, il vient une ou deux fois par semaine. Et,
ouais, il faut pas tout mélanger, quoi.
C'est ça, c'est. Mmh. Ben, c'est pas ça, c'est qu'il faut faire attention en tant que DV à pas faire porter aux autres trop notre handicap, parce que. On aurait tendance à se dire que c'est normal, à se dire, oh bah oui, moi je peux pas le faire, donc c'est normal que mon conjoint le fasse. Mais non,
non,
c'est pas forcément normal.
C'est le meilleur moyen pour la faire fuir.
Exactement, ça. Voilà. Donc, c'est presque le contraire, tu vois, j'essaye de
le moins possible.
Le moins possible. Par exemple, tu vois, un truc nouveau que je me suis mis à faire, je sais que ça va en faire rire plein, mais que je faisais jamais avant, c'est de me faire tourner mes machines de linge moi-même, tu vois. Avant je le faisais pas, mais maintenant je le fais, quoi. Tu vois, et j'essaye au contraire d'alléger mon conjoint au maximum, parce que pendant longtemps je me suis rendu compte que quelque part je faisais porter plus que ce qui était nécessaire. Moi je pense que il faut qu'on accepte, si tu veux, en tant que DV, que ce handicap est d'abord le nôtre.
Il ne faut pas que ça devienne le handicap de la famille.
Voilà, et que déjà, ça l'est par ricochet.
Ouais.
Et que ça l'est de façon beaucoup plus intense qu'on peut l'imaginer. Parce que nous, on le vit, évidemment, c'est très dur pour nous. Mais il ne faut pas croire que ceux qui sont autour, ils ne ressentent rien ou ils ne voient rien. Ou...
Ah bah si, parce qu'ils voient bien tout ce que tu ne peux pas faire, en fait.
Voilà, donc quand on vit entouré de gens qui nous aiment, bah, il faut savoir que c'est aussi une souffrance pour eux. C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est un combat, quoi, qui nous est imposé par la vie.
En tout cas, c'est un sujet très intéressant, Eric, que tu soulèves. Je te propose néanmoins de redevenir un petit peu plus terre à terre, en tout cas, pour continuer notre décomposition avec Daft Punk, toujours. Et cette fois-ci, on va, dans la décomposition, s'intéresser au chant que je te propose d'écouter dans sa quasi-intégralité. Et puis, on se retrouve ensuite.
Tell me what you really like, baby, I could take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, babe. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. You are not the single type, so baby, this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded up this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try. To give it what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I
I feel it coming, baby. I feel it coming, baby. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I know what you feel right now. I feel it coming, baby. I know what you say right now.
On a parlé de cinéma tout à l'heure, des films porno et tout. J'imagine que toi, tu ne regardes pas que ça.
Non.
Et que tu t'intéresses à d'autres films. Et justement, aux films audio décrits. Est-ce que ça te parle, ça?
Énormément, ouais. Oh, ouais. J'aime beaucoup regarder la télé, les films en audio description.
Ouais.
Je regarde au moins 2-3 par semaine. Et franchement, ouais, ça change tout. Parce que j'ai re-regardé plein de classiques. Et franchement, c'est super agréable, l'audio description.
C'est vrai que techniquement, l'audio description, aujourd'hui, on a encore besoin des êtres humains pour les faire, pour les enregistrer, ouais. etc.
Plus pour longtemps.
Plus pour longtemps. Et l'avenir va faire peut-être qu'on n'aura peut-être même pas besoin d'avoir quelqu'un qui va écrire l'audio description. On peut imaginer que l'IA pourra regarder l'écran et nous commenter le truc en temps réel, quoi.
Ça, c'est évident.
Ça, c'est pas impossible.
Hein. Ah bah ça, dans moins de 3 ans, tu l'as. Hein. Dans moins de 5 ans.
Peut-être un peu plus, parce que...
Mais non, regarde, les nouveaux AirPods là, qui viennent de sortir, il paraît qu'ils font la traduction en simultané.
Pour ce qui est de l'audio description, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut que la synthèse te décrive le film à des moments où il n'y a pas de dialogue, si tu veux.
Ouais,
donc
mais
ça va être facile à gérer, j'imagine.
Je pense que ça ne sera pas grand-chose. Hein. Quand je mets la caméra de ChatGPT sur la télé...
Ouais, ça te fait quoi?
Il décrit plein de trucs. C'est incroyable. Tu vois, je l'ai fait par hasard une fois, parce que j'étais assis dans mon lit et j'avais mis la caméra de ChatGPT pour qu'il me dise la couleur d'un pantalon. Et d'un seul coup, il me sort les noms des gens qu'il y avait à l'écran, quoi.
Ah ouais.
Et là, je me suis dit, j'ai halluciné. J'ai vu qu'en fait, il voyait très bien la télé et qu'il pouvait décrire des tonnes de trucs déjà sur ce qu'il y avait à la télé.
Et en temps réel.
En temps réel,
oui, est-ce qu'il y a un petit décalage quand même, ouais.
Non, c'était en temps réel, sauf qu'il n'est pas fait pour ça. Donc, je veux dire, il décrit n'importe quoi, mais il décrit quand même tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de cohérence dans sa description, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais à partir du moment où on va faire des algorithmes...
Oui, c'est ça, il faudra que ce soit une IA qui soit vraiment entraînée que pour ça, en réalité.
Voilà, une algorithme dédiée. Et d'ailleurs, je crois que ça existe déjà sur Netflix. Hein. Je crois que sur Netflix, tu as déjà quelques trucs d'audio-description qui ont été faits par IA.
Pour avoir écouté ça, j'ai l'impression que les voix sont synthétiques, effectivement, mais j'ai quand même l'impression que c'est écrit. Hein.
Ouais,
elles ont été écrites quand même.
Ah,
donc elles sont dites de manière synthétique, si tu veux, parce que comme ça va plus vite. Quand c'est bien écrit, franchement, moi ça ne me choque absolument pas, d'autant que les voix de synthèse sont absolument fabuleuses, enfin moi de ce que j'ai entendu. Enfin, j'attends le moment où ça va être complètement automatisé, ça va peut-être arriver, on ne sait pas.
Moi je te dis moins de 5 ans. Hein.
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que ça permettrait de regarder n'importe quel film.
C'est
parce
ça.
Que là, actuellement, il faut attendre, il faut que ça soit fait. Il faut que...
Et
le problème, c'est que si tu veux prendre un vieux film comme le film Casablanca, c'est un vieux film. Si tu veux te le regarder, eh ben, tu n'as pas d'audio description, a priori. Hein.
Ouais. Moi, j'ai remarqué, quand il n'y a plus d'audio description, j'ai tendance à m'endormir maintenant.
Alors, oui, mais parce que, tu sais, voilà, le souci, par contre, avec ça, c'est qu'on est en train de s'habituer, on est en train de s'habituer à du luxe, en fait, pour nous. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'on fasse marcher nos oreilles et notre imagination, entre guillemets, pour savoir ce qui se passait dans les films. Là, aujourd'hui, c'est pas une critique, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à vivre le film un petit peu comme les voyants, finalement. C'est-à-dire, on se laisse porter par le truc, quoi.
Alors qu'avant, c'est normal.
Oui, mais c'est le but.
C'est normal. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce qu'il y a plein de films, il y a des détails. Si on ne te le dit pas,
tu passes à côté.
Tu rates plein de trucs. Hein. Après, bon, aussi, tu peux faire des erreurs. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Kill Bill de Tarantino en audio-description. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était génial, que ça faisait très manga et tout. Mm. Du coup, je l'ai fait voir à ma fille de 14 ans et je l'ai à moitié traumatisé parce qu'en réel les images étaient super violentes.
Ouais, c'est ça, faut se méfier, hein.
Mélanie m'a dit mais enfin c'est pas de son âge. Et moi je lui ai dit ah ben non mais je sais pas, avec l'audio description je trouvais ça marrant. Ça avait l'air,
ouais, mais tu sais ce qui est moins marrant par contre, c'est que les gens qui n'ont pas vu Kill Bill en audio description, c'est foutu pour eux, hein. Ils pourront plus jamais le revoir puisque la politique, j'ai l'impression, de France Télévisions, c'est de proposer des audio descriptions et puis après, une fois passé, ben, ça passe à la trappe, on les retrouve plus jamais. Et je me demandais mais pourquoi ne pas les confier toutes ces audio descriptions à une application gérée par une association, par exemple, comme je pense à La Bavarde, qui aurait pu se faire un super catalogue, hein, avec tout ce que France Télévisions a fait. Alors j'imagine que c'est encore des histoires de droits, des machins, etc. Mais bon, ça reste quand même de l'argent public qui est déployé pour faire des audiodescriptions qui ne serviront malheureusement qu'une seule fois. Alors il est temps maintenant d'écouter la partie vocale, la partie des chœurs sur ce titre. Pour l'appréhender, je vais mettre la voix lead un petit peu en retrait de manière à apprécier la piste des chœurs. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love, what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so baby, that's the perfect time. I'm just trying to get you. I'm high. Just trying to fade it up this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free.
We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.
Finir, est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais nous faire part, une actualité musicale, un coup de cœur, quelque chose qui, qui t'a marqué là, récemment?
C'est marrant pour quelqu'un de l'électro comme moi. J'aime beaucoup le dernier single de Vanessa Paradis, Bouquet Final. Mais sinon, moi, j'ai produit un album qui va sortir cette année, dont le deuxième single est sorti il y a 2-3 semaines. L'artiste s'appelle Prince 85, donc il est signé chez Universal. Et voilà, donc je suis assez content de ce projet. Ça m'a pris 8-9 mois pour produire cet album.
C'est toi qui as fait la prise de son?
Alors là, j'ai fait la production, c'est-à-dire que le gars, il vient avec les morceaux déjà composés pour la plupart. Et je remplace des sons, j'en rajoute d'autres, je fais des arrangements, je fais sonner tout ça, je l'aide à faire éventuellement des structures. Enfin voilà, je travaille sur pas mal d'aspects du morceau, quoi, pour le rendre, pour arriver jusqu'au mastering, quoi.
On jettera une oreille sur Prince 85, ça sera disponible sur toutes les plateformes, j'imagine.
Ouais, il y a déjà 2 titres qui sont disponibles.
D'accord.
Il paraît qu'il y a un super clip, mais bon,
ouais.
On n'en profitera pas.
Ouais. En tout cas, Eric, tu es un exemple de musicien, ingé son, qui a, malgré le handicap, réussi à faire toute une carrière, finalement, parce qu'on peut parler de carrière à ce niveau-là.
Oui, ça fait quand même 40 ans, là.
Voilà, donc 40 ans de studio, 40 ans de composition aussi, j'imagine. Et je tenais vraiment à faire ce Voxtrack avec toi, parce qu'effectivement, les Daft Punk, c'est un peu une partie de ton histoire.
Ah ben oui, quand même.
Et quand même, voilà. Donc, c'était intéressant, je pense, de s'immerger un petit peu dans la vie des Daft Punk, même si on n'en a pas beaucoup parlé, finalement.
C'est vrai, finalement, on n'en a pas beaucoup parlé.
On a beaucoup parlé de toi, mais c'est un peu le but, hein, c'était un peu le but de te mettre en avant.
Après, moi, j'ai surtout travaillé avec Guy-Man,
Des
Daft Punk.
D'accord.
J'ai jamais vraiment travaillé avec Daft Punk. Finalement, ma seule collaboration avec Daft Punk, c'est sur I Feel It Coming.
Oui.
Parce qu'avant, moi, je travaillais avec Guy-Man et Thomas, il avait son label de son côté aussi, qui s'appelait Roulet. Et voilà, on était en parallèle. Mais enfin, bon, c'est vrai que j'ai évidemment côtoyé les Daft Punk énormément. J'étais à toutes leurs tournées. Puis dans la vie privée, quoi, on était très amis et tout ça.
Enfin, tu continues à les voir?
On se voit plus trop ces derniers temps, mais
il
y a eu la séparation aussi entre Thomas et Guy-Man.
Ça, par contre, ouais, effectivement, ça n'a pas.
Donc,
ça
pas aidé. Tu sais, c'est la vie, hein, je crois aussi. Quand ça fait 30 ans qu'on se côtoie un peu trop tous, à un moment donné, je pense que tout le monde a envie un petit peu de mettre de l'air, quoi.
Voilà. Eric, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir donné un peu de ton temps.
C'est moi qui te remercie, Meb, c'était sympa.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne continuation encore?
Merci, puis toi aussi, de continuer tes super Voxtracks.
Je te remercie.
Dis à très bientôt alors.
À très bientôt, Eric.
Allez, bye bye.
Bye bye. Je vous propose, pour finir ce Voxtrack, de réunir tout le monde autour de The Weeknd. C'est la façon habituelle de terminer les Voxtracks.
trying to get you high. Fade it off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. Don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby. I feel it coming. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Ainsi s'achève ce numéro de VoxTrack consacré au groupe des Daft Punk et à la collaboration de Rico de Wizard pour le titre I Feel It Coming. Vous pouvez me laisser bien sûr tous vos commentaires sur ce VoxTrack. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite donc pour un prochain numéro de VoxTrack. Ciao tout le monde.